Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. La Reine, l'émission d'information locale de Canal B, s'apprête à commencer. Au menu aujourd'hui, l'info du jour, un coup de pouce de Rennes Métropole pour des projets solidaires. Deux interviews, d'abord pour annoncer un ciné-débat sur les loups avec l'association Féru en Bretagne. Puis pour parler chauffage au bois responsable avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement et Fibois Bretagne. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis trois recommandations de sortie pour vendredi 19 janvier. Bienvenue dans la Reine. Allez, tous les jours, on lance l'émission d'information locale avec une info du jour, choisie pour vous parmi tout ce qui se dit dans la presse locale. Aujourd'hui, on parle de Rennes Métropole, qui lance son quatrième appel à commun pour soutenir des projets solidaires sur le territoire. Un dispositif imaginé dans le cadre de sa stratégie métropolitaine des solidarités adoptée en 2022. Cette fois, donc jusqu'au 1er mars 2024, les associations qui mènent des actions dans le champ de la solidarité, notamment avec les aînés, mais aussi dans les champs de l'égalité et de l'innovation sociale, peuvent candidater pour prétendre à une bourse. Une enveloppe de 123 000 euros a été budgétée pour ce dispositif, avec un montant maximum de 5 000 euros prévu par association. Mais si le projet est porté par plusieurs structures, le montant peut grimper jusqu'à 10 000 euros. Depuis 2021, 65 projets ont été soutenus avec ce fonds de Rennes Métropole pour un montant total de 146 000 euros. On peut donner des exemples d'associations lauréates sur la précédente édition. Par exemple, l'association Si on s'alliait dans le quartier de Villejean qui organise des permanences d'entraide administrative. L'association Kidam Théâtre pour un projet axé sur la santé et l'accès aux soins des personnes réfugiées en formation. Ou encore l'association Diapositive et ses ateliers photo avec des femmes en demande d'asile. Intéressé par ce dispositif, vous trouverez plus d'informations en ligne sur le site métropole.rennes.fr avec, on le redit, une candidature à faire parvenir d'ici le 1er mars. Pour des projets, on l'a pas dit, mais qui concernent l'année en cours, l'année 2024. Allez, après cette info du jour, place à une première interview menée par Corentin, volontaire en service civique.
Le loup en Bretagne, une cohabitation est-elle possible ? C'est l'intitulé du ciné-débat qui se déroule vendredi 19 janvier à 20h au cinéma Mauclair de Saint-Aubin-du-Cormier. Une projection du film « Au retour des loups » de Marie Amiguet, suivie d'un débat avec des membres de l'association Férus, dont Tanguy Descamps est l'animateur de l'antenne bretonne. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
On parle aujourd'hui du retour du loup en France et en Bretagne, mais avant de parler de ça, il faut peut-être comprendre l'historique de la présence des loups sur le territoire. En 2022, on estimait qu'il y avait 921 individus présents dans le pays, alors qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'estimation était entre 10 et 20 000. Comment on explique une telle différence ?
Alors la différence, c'est qu'en fait, depuis quasiment un millénaire, depuis Charlemagne, si on veut remonter un petit peu plus loin, la France, comme d'autres pays d'ailleurs en Europe, a organisé une extermination, en fait il faut appeler ça comme ça. Charlemagne a créé la louveterie. À l'époque, les loups, il y en avait beaucoup, il y en avait partout, ils posaient effectivement des problèmes avec l'élevage et compagnie. Et en fait, on a mis 1000 ans à peu près à exterminer complètement l'espèce en France. Elle a disparu de France, le dernier individu a dû être abattu dans les années 30 en France, donc il y a à peu près un siècle maintenant. Et il est revenu naturellement d'Italie en 1992, donc il y a eu une absence de 60 ans seulement. Pendant 60 ans, on n'a plus eu du tout de loups en France. Le retour, c'est simplement parce qu'en fait, dans les années 70, il y a eu des protections mises en place dans les deux seuls pays où il restait encore des loups en Europe occidentale, donc l'Espagne et l'Italie. Notamment les Italiens les ont bien protégés, le gibier est devenu plus abondant dans les forêts françaises, les mentalités ont un peu changé, il y a eu des mesures de protection avec des lois européennes qui ont été signées par la France. Et donc le loup a naturellement, en France mais comme ailleurs en Europe, en Allemagne aussi, en Suisse, a retrouvé son ancien territoire. Avant il y avait des loups partout. Et petit à petit donc le loup recolonise naturellement son espace à partir du moment où on lui laisse un peu le temps de le faire. Et en France, on est passé donc de 0 en 1990 à aujourd'hui à peu près 1100 loups, on estime. Cet été, à peu près, les dernières estimations, c'était de cet ordre-là, sur la France, donc essentiellement basée sur l'arc alpin. Toutes les meutes reproductrices, à quelques exceptions près, sont dans les Alpes. Et les loups qu'on voit jusque chez nous, éventuellement, sont des jeunes dispersants, des loups qui dispersent et qui essayent de trouver un nouveau territoire, de fonder une meute, éventuellement, mais c'est là que c'est un peu compliqué pour eux.
Tu parles d'une extermination ? À quoi elle est due cette extermination ? Pourquoi les humains ont fait ça ?
C'était simplement qu'à l'époque, il y avait une compétition très importante entre les loups et la vie dans nos campagnes. Il faut bien savoir que dans les campagnes avant en France, il y avait du monde partout. Hein, 90% des gens vivaient dans les campagnes, vivaient dans les forêts, avaient le droit de chasser ou pas, selon ce que les seigneurs leur laissaient. Et donc la compétition sur le gibier était féroce. Les loups attaquaient parfois les humains, c'est vrai, il y a eu des accidents par rapport au gardiennage des troupeaux qu'on laissait aux jeunes enfants éventuellement. Le loup visait tout simplement les moutons, s'il y avait un enfant sur le terrain, bah, il prenait un croc, ça pouvait arriver. Il y avait le problème de la rage aussi, qui était très forte. Encore au 19e et 18e siècle, quasiment toutes les attaques de loups en France étaient des attaques dues à la rage. Faut savoir que la rage a disparu de France. Je crois que le dernier cas de rage, c'était un renard qui a été repéré en 1999 en France. Donc ça fait maintenant 30 ans quasiment 30 ans qu'on n'a plus de rage en France. Donc voilà, l'espèce loup a pu être dangereuse dans le passé par rapport à l'homme. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le loup, ça fait quelques siècles maintenant qu'il a appris à avoir bien peur de l'homme. Donc il s'en méfie comme c'est pas possible. Il l'évite au maximum et la cohabitation est plus facile. Sauf pour les professionnels, effectivement, qui n'ont plus de moyens de protection parce qu'ils avaient perdu l'habitude de protéger leurs troupeaux. Et c'est là qu'on essaie d'intervenir pour réintroduire des mesures de protection et les aider à se protéger des prédations sur les troupeaux.
Tu as commencé à en parler. Du coup, toi, tu es à l'association Férus. Ça agit pour la défense des grands prédateurs présents sur le territoire français, donc notamment les ours, les lynx et les loups. C'est quoi cette association ?
Alors au début, ça s'appelait il y a 30 ans le groupe Loup France, qui s'est créé il y a 30 ans quand le loup est revenu en France, tout simplement. Et il y a une vingtaine d'années, on s'est associé avec Artus, qui était une grosse association qui défendait les ours dans les Pyrénées. Et l'association s'est devenue Férus. Donc on est devenu la principale association qui défend ces trois grands prédateurs-là. Spécialisé sur ces trois grands prédateurs-là, on ne s'occupe pas entre guillemets des autres bestioles, il y aurait bien d'autres animaux à défendre aussi, mais il y a plein d'autres associations pour ça. Nous, on est spécialisé là-dessus avec une particularité, c'est que dès le début, on a compris que être pro-loup ou anti-loup, ça ne servait à rien. Nous, notre voix, c'est la troisième voix, c'est la voix de la cohabitation, et on essaie de parler au maximum avec les éleveurs qui veulent bien travailler avec nous, et on y arrive, et on forme des éco-volontaires qui vont donc les aider à surveiller leurs troupeaux pour faire baisser la prédation. Et on essaye d'accompagner au maximum sur tous les territoires, et maintenant en Bretagne aussi. On pousse l'État à aider les éleveurs à distribuer ces mesures de protection qui permettent de mettre en place des protections pour parvenir à une cohabitation avec le sauvage qui revient chez nous. Voilà.
Les éleveurs, tu l'as dit, c'est la population la plus touchée par le retour du loup.
C'est la seule.
C'est la seule. Qu'est-ce que vous mettez en place du coup concrètement avec eux
Alors le triptyque de protection habituel que l'État aussi aide et finance au travers des mesures mises en place dans les cercles de protection dans tous les départements en France, le triptyque habituel dont on parle, c'est le chien de protection, donc les gros patous, il y a d'autres races, hein, il y a 9 ou 10 races qui sont capables de protéger les troupeaux. Donc le chien de protection, le regroupement nocturne dans des barrières mobiles ou fixes, et la présence humaine surtout, donc la présence d'un berger, qui est professionnel si possible, qui est financé en partie aussi par l'État maintenant. Faut savoir qu'avant le retour du loup, le métier de berger n'existait quasiment plus. Il y avait des éleveurs qui n'avaient souvent pas de berger et les troupeaux étaient en divagation quasiment en permanence avec assez peu de surveillance, mais il y avait moins d'attaques. Il y avait des attaques de chiens, ça il y en a toujours eu, mais pas de loups en tout cas. Donc une fois qu'on met en place ces trois mesures-là, on réduit très fortement, de manière durable, la protection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas zéro prédation, c'est pas possible, mais on réduit la prédation, je veux dire. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on amène notre petite pierre à l'édifice. Les éleveurs qui font cet effort-là, on essaie de leur fournir des éco-volontaires qu'on forme à la protection. Avec un petit stage d'une semaine de prévention, de préparation, on les met en présence de l'éleveur pendant une, deux, trois semaines, le temps qu'ils peuvent donner, pour simplement faire de la surveillance nocturne. Donc ils ne remplacent pas le berger, ils ne guident pas un troupeau, ça c'est pas leur métier, c'est le métier du berger. Par contre, le fait d'être là en permanence, ça soutient le berger qui ne peut pas tout le temps être là, il doit aller au ravitaillement de temps en temps, il doit dormir la nuit dans sa cabane, etc. Le loup en profite. Mais la présence du bénévole, avec lui, il pose sa tente tout simplement à côté du troupeau, éloigne le prédateur. Le prédateur n'aime pas l'homme. Donc quand il y a un troupeau qui est gardé par l'homme, bah, il va voir le troupeau d'à côté tout simplement.
D'un côté, du coup, vous avez ce travail aux côtés des éleveurs. Et tu l'as dit, d'un autre côté, un travail plutôt politique au niveau de l'État, ça passe par quoi ?
Ça passe par notre présence dans les réunions avec assez régulièrement, 2-3 fois par an, tous les départements, toutes les DTM, donc qui sont le bras armé des préfectures, organisent des réunions avec tous les agents concernés, les agents de l'État, les éleveurs, les associations protectrices. Et dans ces réunions-là, nous, on pousse au maximum pour essayer de forcer, entre guillemets, l'État à mettre en place les mesures de protection. Et après, notre travail à nous, notamment en Bretagne, où on n'a pas encore d'action de terrain, parce qu'on n'a pas assez de monde sur le terrain, tout simplement, c'est de faire de l'information, donc de faire du ciné-débat, de faire des rencontres avec les éleveurs, d'aller les voir au maximum. Et puis, effectivement, si les gens sont intéressés, de les recruter éventuellement pour aller faire des missions dans les Alpes, dans le Jura ou ailleurs.
Votre association a annoncé en décembre une potentielle mauvaise nouvelle pour le loup. La présidente de la Commission européenne a proposé aux États membres le déclassement du statut du loup, alors que c'est actuellement une espèce protégée, si je ne me trompe
oui,
pas.
Oui.
En quoi ce serait un problème ?
Le plan national loup actuel prévoit déjà l'abattage d'un certain nombre de loups. Il faut savoir qu'en France, depuis quelques années, on abat quasi près de 200 loups. Je crois qu'il y a 203 loups qui ont été tués cette année. Sur un total de 1000, donc ça correspond au taux d'accroissement de l'espèce. Pour nous, c'est trop. On n'est pas complètement contre l'abattage des loups. Dans certains cas, ça peut soulager les éleveurs et tout ça. Nous, ce qu'on reproche à ces mesures d'abattage, c'est qu'elles sont décidées par des préfets qui ont des pressions politiques énormes. Ce sont souvent des abattages pour calmer les vallées, hein, comme on dit. Il y a des endroits où les préfets ont trop de pression locale, donc ils décident des tirs de manière abusive. Il faut savoir que dans le seul département du 04, les Alpes-de-Haute-Provence, cette année, en 12 mois, il y a eu 30 loups d'abattus. Pour nous, ça ne rime à rien. Toutes les meutes sont déstructurées, ça part dans tous les sens. Les loups ne se vivent plus en meute, donc ils vont taper là où ils peuvent et de manière moins efficace. Et quand un loup à la chasse est moins efficace, il va au plus facile, donc il va aux moutons plutôt qu'aux proies sauvages. Voilà. Il faut vous rappeler qu'en France, les proies sauvages, c'est quand même 80% de leur alimentation, mais le mouton, c'est plus facile à attraper. Si vous tirez sur des meutes que vous les cassez, les loups se retrouvent seuls et ils vont là où ils peuvent. Et si une meute est déstructurée de toute manière, il y a d'autres meutes qui vont arriver prendre la place après. Donc le tir ne résout des problèmes que dans l'instant, mais sur la durée ne résout rien. Pour nous, là, c'est vraiment la protection, mettre en place les mesures de protection qui sont plus valables. Et pour en revenir à notre amie Ursula von der Leyen, on dit beaucoup qu'elle n'aime pas le loup parce qu'elle s'est fait croquer un poney, je crois, qui appartenait à sa famille l'an dernier. Alors ça, c'est un peu la blague. Nous, on pense aussi que malheureusement, pour être élu à la tête de l'Europe au printemps prochain, il faut les voix du principal parti européen qui va la soutenir, le PPE, qui est plutôt anti-loup. Et donc voilà, je pense que c'est surtout des raisons politiques qui font qu'elle voudrait de déclasser la protection du loup. Mais le loup n'est pas encore suffisamment solide, entre guillemets, en France pour en abattre plus. Après, ça va être de la chasse au loup et nous, là, on est contre ça.
La projection au retour des loups est organisée par des élèves de BTS Gestion et Protection de la Nature à Saint-Thomas-du-Cormier pour débattre du retour de loup en Bretagne. On en entend un peu parler depuis quelques temps. Est-ce que le loup est vraiment en train de revenir dans la région ?
Alors ce sont des dispersants, donc les dispersants c'est des jeunes adultes hein, qui ont entre 1 et 2 ans, ça peut aller jusque 3 ans, et comme les ados chez nous dans nos familles, au bout d'un moment ils s'entendent plus avec papa maman, c'est un petit peu compliqué dans les familles, donc soit ils arrivent à prendre la place du père ou de la mère, soit ils arrivent à tolérer l'autorité de leurs parents entre guillemets, ce qui n'est pas toujours facile, soit ils dispersent. Donc c'est un phénomène naturel, une ou deux fois par an il y a des grandes poussées dans les meutes avec beaucoup de contraintes, et les jeunes sont appelés à disperser parfois. Donc 50% des loups dispersent à moins de 200 km de leur territoire d'origine, et 40% dispersent à une distance comprise entre 200 et 1000 km, 10% plus. Ce qui veut dire que pour eux, même en partant des Alpes, arriver en Bretagne, c'est pas forcément un problème. Donc ils s'installent pas vraiment, ils s'installent mais ils sont tout seuls. Donc le but du jeu d'un loup, c'est de trouver une louve pour fonder une meute, évidemment. Tant qu'il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de création de meute locale. C'est ce qui se passe en Bretagne, où ça va être compliqué pour eux parce que les femelles dispersent un peu moins loin, mais ça peut finir par arriver. On pense qu'il y aura un peu plus de loups à l'avenir, dans un avenir proche en Bretagne, ça c'est fortement possible. Il n'y aura pas 150 meutes comme dans les Alpes, c'est pas possible. Le territoire breton ne peut plus le permettre. Il y a trop de monde partout, il y a très peu de zones de tranquillité en Bretagne, c'est ce qu'il faut. Hein. Le loup, il faut à manger de la tranquillité. À manger, il y en a, il y a du chevreuil, il y a du sanglier partout. Mais des zones de tranquillité en Bretagne, il n'y en a pas beaucoup. Et ça va manquer au loup. Donc il peut y avoir des installations, mais peu.
Justement, c'était la question que je me posais. Est-ce que ça peut évoluer de façon rapide? Est-ce qu'il peut y avoir des meutes qui se constituent prochainement? À quelle vitesse ça peut évoluer?
Alors, le loup est très surprenant. Il peut nous surprendre. On l'attendait moins vite en Bretagne. Moi, je ne suis pas super optimiste à moyen terme pour qu'il y ait beaucoup de meutes. Il peut y en avoir, mais pour vous donner une ordre d'idée, toutes les meutes, en fait, en France, sont dans les Alpes. Il y a eu une seule meute dans les Vosges, pas très loin des Alpes, qui s'est reproduite en 2013. Plus rien depuis. Donc depuis 10 ans, pas de reproduction dans les Vosges. Et les seules autres reproductions qui ont été avérées, c'était dans le Mont Lozère, Massif central, en 2022 seulement, près des Calanques, à côté de Marseille, et près de la frontière Jura-Suisse. Donc pour l'instant, il y a très peu de reproduction en dehors des Alpes. Le loup a bien du mal à se reproduire en dehors. Donc une reproduction en Bretagne serait très surprenante. Ça peut finir par arriver, mais ce n'est pas parce qu'il y aura une reproduction qu'il y aura une installation durable de l'espèce d'année en année. Voilà. Ça va rester un territoire difficile pour lui. Ce n'est pas impossible, mais il n'y aura pas autant de loups qu'il y avait avant en Bretagne. C'est absolument impossible.
Le film Au retour des loups est un film qui parle du retour du loup sur ces terres d'autrefois. Il est décrit comme un film qui dit quelque chose sur notre rapport au monde et à l'étranger, tout en racontant qu'un autre rapport aux prédateurs est possible. Est-ce que c'est une vision que vous partagez à la Sophérus?
Bah nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. On se dit, de toute façon, c'est aussi du pragmatisme. On aimerait vivre de plus en plus aux côtés d'une nature réensauvagée, etc., etc. Mais le territoire a changé. Voilà, notre territoire a changé. Il y a du monde partout maintenant. Il y a des activités humaines importantes qu'il faut continuer à soutenir, l'élevage notamment. C'est pas le loup ou les éleveurs, c'est pas possible. Donc là, il y a pas de choix. Pour nous, c'est forcément la troisième voie, la voie de la cohabitation. Et on sait que ça marche dans les Alpes, dans les endroits où la protection est mise en place depuis pas mal d'années. Il y a pas mal d'endroits où la prédation est forte, hein, elle est importante, mais elle se maintient à un niveau constant depuis quelques années, elle n'augmente plus, alors que sur certains territoires du centre des Alpes, le nombre de loups a encore doublé depuis 5 ans, et avec une prédation constante. On pense que c'est parce que la protection, les mesures de protection commencent à marcher. Et pour nous, c'est la seule voie durable. Si on va vers la guerre anti-loup, on va tous les flinguer. Est-ce qu'on est en France ou en Bretagne, par exemple, être le premier pays au monde à réexterminer une deuxième fois une espèce? Je pense que c'est pas un souhait. Alors le retour du sauvage, on le souhaite tous, notamment dans les villes, pour nous c'est très facile, mais pour ça il faut que l'État et les citoyens fassent un effort pour aider ceux qui en souffrent, c'est-à-dire les éleveurs.
Le but du coup d'une projection comme ça, j'imagine, c'est de faire passer ce message, de dire qu'une cohabitation est possible.
Oui, c'est ça, voilà.
Au retour des loups de Maria Miguet, c'est le film qui sera projeté à l'occasion du ciné-débat intitulé Le loup en Bretagne, une cohabitation est-elle possible? Ça se passe vendredi 19 janvier à 20h au cinéma Mauclair de Saint-Aubin-du-Cormier et c'est gratuit. J'étais avec Tanguy Descamps, animateur de l'association Férus en Bretagne, association qui sera également présente vendredi pour participer au débat à l'issue de la projection. Merci beaucoup Tanguy.
Merci.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers, je survolerai les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. Perpétue mes hécatombes, d'ailleurs je mange les œufs. de colombes. Cui.
Encore du Bertrand Belin, me diront certains, mais là c'est pas moi qui ai choisi, c'est Tanguy Descamps, l'invité qu'on vient de quitter. Il souhaitait qu'on diffuse le morceau « Oiseau » à retrouver sur l'album « Tambour Vision » dans la version augmentée qui est sortie fin 2022. Et Bertrand Belin, tiens, vous le retrouverez bientôt à Rennes sur la scène du festival Mythos le 7 avril sous le fameux cabaret botanique. Vous écoutez La Rennes, c'est l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0, mais vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur canalb.fr. On poursuit cette émission avec une seconde interview. Jacques Leletti et Morgane Le Breton, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Jacques, vous êtes chargé de mission santé-environnement à la MCE, la Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes, qui est à deux pas de la gare. Morgane, vous êtes animateur bois-énergie pour Fibois Bretagne. On va vous retrouver sur des événements là à venir, des villages éphémères pour parler chauffage au bois le 20 janvier à la Mézière, le 26 à Champy et le 3 février à Gauvin. On va détailler tout ça dans un instant. Dire d'abord que ce Bûche-Tour, puisque c'est son nom, il a finalement déjà commencé en fin d'année 2023 avec des marchés.
Effectivement, on a été présents ensemble avec Sierre Braise, notre partenaire, sur 4 marchés, sur Rennes et alentour, où on présentait effectivement le rappel des bonnes pratiques sur le chauffage au bois et le possible impact sur la qualité de l'air, comment essayer d'atténuer au mieux cet impact sur la qualité de l'air, parce qu'on est il y a pas mal d'habitants à chauffer au bois, donc c'était quelque chose qui leur parlait.
Surtout en plein hiver, on cite rapidement les deux autres partenaires sur ces événements, la DREAL, donc l'État, et Rennes Métropole, dans le cadre de son plan de protection de l'atmosphère. On arrive à Fibois Bretagne, structure que je ne connaissais pas et dans laquelle vous travaillez, Morgane. On dit un mot sur les équipes, le territoire couvert et surtout sur les missions que vous menez.
Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis animateur bois énergie pour l'association interprofessionnelle Fibois Bretagne, anciennement Abibois pour ceux qui connaîtraient. Et c'est donc, comme j'ai dit, une association qui regroupe un réseau de professionnels de la filière bois sur les différents maillons de la filière. Donc on intervient de la forêt à la construction, recherche et développement, l'emploi et bien sûr le maillon énergie. Donc dans les missions qu'on accompagne, c'est de l'observation, en partenariat avec l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, de l'accompagnement des professionnels, de la mise en réseau, forcément pour structurer une filière. Et sur la partie chauffage domestique, on a un sujet sur la qualité de l'air, et donc là c'est plutôt des actions de sensibilisation pour garder les bonnes pratiques et, comme le disait Jacques, réduire l'impact du chauffage au bois sur la qualité de l'air.
C'est près de 300 adhérents aujourd'hui, c'est
un
ça?
Un peu plus de 350 adhérents, tout à fait.
L'objectif annoncé de ce Bûche Tour, c'est donc d'informer sur le chauffage au bois responsable. Alors moi je pensais qu'aujourd'hui c'était pas un mode de chauffage encouragé pour les autorités, est-ce que j'ai tout faux?
Alors, si, enfin, ça reste encouragé parce qu'on voit qu'il y a toujours des dispositifs d'aide pour s'équiper, que ce soit de manière collective ou chez les particuliers. Après, ce qu'il faut encourager, c'est le renouvellement du parc. Il y a beaucoup encore de foyers ouverts, de foyers d'ancienne génération. On a comme beaucoup de domaines évolués techniquement. Donc, on sait que changer le parc, ça a un vrai impact sur la qualité de l'air et la combustion. Ça permet de valoriser aussi les gestions sylvicoles et de mettre une première économie dans la filière bois, que ce soit sur la forêt ou le bocage. On est une région agricole, donc forcément on a aussi cette opportunité-là. Et on a une culture du bois énergie, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a encore une maison sur deux qui s'équipe ou qui est équipée de chauffage au bois en Bretagne.
Bon, quand même, la vigilance principale, elle concerne les émissions de particules fines, puisque ce mode de chauffage, il est neutre sur les émissions carbone, mais le problème, c'est les particules fines.
Effectivement, que quand on fait un feu...
On le voit de façon
des poussières, visible. Voilà, ça sent, et puis il y a des poussières qui s'envolent, et ça contribue, c'est un des contributeurs aux émissions de particules fines. Il y a d'autres contributeurs aussi, que sont le transport et les autres activités. Mais en hiver, c'est vrai que la part du chauffage au bois peut être plus importante en fonction de la température. On était la semaine dernière avec des épisodes de pollution, d'ailleurs que la presse a relayé, et voilà, c'était le froid. Donc le chauffage au bois qui était en face, parce qu'il n'y avait pas plus de véhicules la semaine dernière qu'est-ce qu'il y en avait les semaines d'avant ou les semaines à venir.
Et alors vous qui êtes chargé de mission santé-environnement, Jacques, est-ce qu'on sait si ça a un impact sur la qualité de l'air directement pour les usagers, pour les habitants d'une maison qui se chauffe avec une cheminée, un poêle ?
Ça a effectivement un petit peu de conséquences. C'est pas facile à évaluer, parce qu'on en revient à la spécificité d'un équipement par rapport à un autre. Donc c'est très variable, donc c'est difficile de dire à quel niveau. Mais oui, inévitablement, encore plus avec un foyer ouvert, parce que il y a des déperditions de poussière dans l'habitation. C'est souvent moins vrai avec des foyers fermés, où là, ça va dehors, mais ça va sur le voisinage. Donc oui, il y a un impact de proximité et plus loin, puisque avec les masses d'air, ces poussières peuvent aller loin. Et on subit aussi en Bretagne, parfois, le chauffage de la région Île-de-France ou des pays étrangers. Donc, il faut avoir cette dimension-là aussi de contamination, soit du voisin, soit de beaucoup plus loin.
Bon, on se rappelle notamment, moi je repense aux incendies de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, dont les fumées étaient arrivées jusque chez nous. Donc, ça voyage loin.
Ou des poussières du Sahara aussi.
Le bois, qu'il s'agisse d'un chauffage avec une cheminée, un poêle, reste aujourd'hui un mode de chauffage important en France, notamment parce qu'il est économique. Ce sont près de 7 millions de foyers qui ont recours, d'après l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique. Et on a des chiffres pour la Bretagne, puisqu'il y a eu une enquête de réaliser l'année dernière qui nous permet de savoir qu'ici aussi c'est un mode de chauffage important.
Oui, oui, complètement. Et même un peu plus, on est une région très dynamique, que ce soit sur les ventes d'appareils. Alors, on n'est pas la région la plus forestière pour autant, si on compare à des régions voisines. Mais comme je le disais, on a d'autres sources d'approvisionnement, comme le bocage. On a intérêt aussi à s'intéresser à notre bocage. On sait qu'on a un potentiel dedans. Donc, l'enquête révélait qu'il y a une maison individuelle sur deux qui a un appareil de chauffage au bois. Donc c'est un chiffre important. On a une culture du bois énergie en Bretagne et le chauffage collectif aussi se développe bien et est structuré en Bretagne, qui montre l'attachement au bois énergie de la région.
Les chauffages collectifs dépendent souvent des copropriétés, ou c'est même porté aussi par des institutions
Alors il y a différents types de projets de chauffage collectif. Ça peut être comme à Rennes, du chauffage de quartier complet fourni en partie par un approvisionnement biomasse. Ça peut être aussi pour des industriels qui ont des gros besoins de chaleur, et des agriculteurs aussi. On a beaucoup d'agriculteurs qui gèrent leur bocage, du coup peuvent s'approvisionner eux-mêmes en plaquettes, et du coup leurs besoins en chaleur pour les exploitations laitières par exemple ou autres peuvent être fournis par une chaudière à plaquettes par exemple.
Une question sur les atouts du chauffage au bois. Donc on l'a déjà dit sur sa neutralité en carbone, un mode de chauffage aussi économique et puis renouvelable. Ça va peut-être contre une idée reçue, parce qu'on dit qu'on utilise du bois, mais on en utilise au final moins que ce qui est produit chaque année. On peut l'expliquer comme ça?
Oui, alors il y a plusieurs chiffres à prendre en considération. On sait que la forêt s'accroît en France de manière générale, en Bretagne aussi, elle est bien géré. Les personnes qui observent ça peuvent le prouver avec des chiffres. Donc oui, on a encore aujourd'hui une forêt qui grandit. On utilise la moitié de son accroissement dans l'ensemble de l'activité du bois, que ce soit le bois construction et le bois énergie. Après, donc, on parle d'une énergie renouvelable si, bien sûr, ça provient d'un gisement qui est géré durablement. Et c'est ça qui est important. On est sur une filière, surtout sur le bois-bûche, où beaucoup de personnes s'auto-approvisionnent ou, en tout cas, passent à côté d'une filière professionnelle. Donc, c'est difficile d'avoir, du coup, une visibilité sur ces gisements. Donc là, la première question à se poser, c'est « Ok, je fais mon bois ou je me fournis par moi-même, mais d'où provient mon bois ? Est-ce que c'est un gisement qui est renouvelé ? Est-ce que le bois est entretenu pour ça ?» La meilleure manière de mobiliser du bois énergie dans tous les cas, c'est de mettre en gestion les boisements, différents boisements, pour aller chercher du bois de qualité bois d'œuvre. On sait que la gestion sylvicole nécessaire pour aller chercher des bois de qualité bois d'œuvre va nécessiter de l'entretien des forêts. Et en fait, c'est le menu bois, c'est bois de trituration, ou le bois qui n'est pas transformé en scierie, qui derrière va être revalorisé en énergie.
Ça veut dire quoi, bois de trituration ?
Ce sont les bois qui vont être sortis des forêts pour laisser la place à ses congénères de se développer, parce qu'ils sont en mauvaise santé, parce qu'ils sont tout tordus et que du coup, celui qui est à côté ne va pas pouvoir se développer de manière optimale. Donc tout ça, ça rentre dans des modes de gestion durable des forêts. Hein, c'est mis en place avec des techniciens forestiers. Mais c'est ces gisements-là qui sont utilisés faute de qualité de transformation. De toute façon, il faut bien se dire que si un bois se retrouve dans l'énergie, c'est qu'il n'a pas pu être valorisé dans une scierie, alors économiquement ou techniquement, mais voilà, c'est qu'il y a un choix qui a été fait.
La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on fait pour donc continuer à se chauffer au bois, mais de façon plus responsable en tant qu'habitant. Il y a d'abord un sujet sur l'équipement et son ancienneté.
Tout à fait. Le meilleur moyen aujourd'hui de limiter son impact, c'est d'avoir un équipement performant. Comme pour tous les domaines, on a su évoluer. Le foyer ouvert, malheureusement, il faut l'oublier parce qu'on sait que c'est difficile d'aller chercher les conditions optimales d'une combustion.
Et en Bretagne, on imagine qu'il y en a beaucoup, notamment sur des vieilles cheminées, dans des fermes, etc.
Il y en a encore. Alors l'enquête, pareil, montre qu'on a réussi à remplacer la moitié de ce parc, mais il y a encore un travail à faire dessus. Après, il y a aussi les cheminées d'ancienne génération, d'avant 96, qui sont un petit peu considérées aussi comme moins performantes. Donc aujourd'hui, il faut se baser sur des appareils qui sont labellisés flammes vertes. C'est vraiment un label national qui est reconnu, qui permet d'avoir des garanties de rendement, d'émissions de polluants sur l'appareil. Une installation aussi, dans les règles de l'art, donc il faut passer par un professionnel RGE Calibois qui va pouvoir bien dimensionner l'appareil, avoir une installation bien étanche, déjà pour limiter du coup les émissions dans le foyer, et après avoir un appareil performant pour avoir moins d'émissions du coup qui se retrouvent aussi chez les voisins, comme pouvait expliquer Jacques.
Mais alors la solution, si on a une cheminée qui date un peu, c'est soit d'installer un insert neuf, ou alors de remplacer carrément par un poêle.
C'est ça, aujourd'hui il y a plusieurs façons, on peut soit remplacer l'ensemble de l'installation de A à Z si on veut faire table le rase et repartir d'une installation propre. Après, si vous êtes déjà équipé d'une cheminée ouverte, vous pouvez en effet intégrer un insert dedans. On va regainer le conduit. En fait, on va améliorer l'existant de l'appareil au réseau d'évacuation des fumées, ce qui va permettre d'optimiser la combustion.
Donc le rendement énergétique sera amélioré et les émissions de particules fines réduites. J'ai lu qu'il y avait des aides possibles pour ces changements d'équipement, notamment via le dispositif France Rénov. Au-delà de l'équipement, il y a ensuite ce qu'on met dans sa cheminée ou son poêle, et puis la façon dont on allume et on entretient son feu. Tout ça, ça joue ensuite sur les émissions de particules fines. Moi, je ne connaissais pas toutes ces subtilités-là.
C'est exactement ça. En fait, le dernier souci, c'est la main de l'homme. Sur un appareil à bois bûche, on est très dépendant de la pratique de l'utilisateur. Un appareil à granulés, c'est un appareil qui est informatisé, qui va gérer les arrivées d'air, le débit. Les chaudières, c'est pareil. On a du coup une autonomisation qui permet de garantir une combustion. La cheminée, il y a toujours besoin d'alimenter, de mettre une bûche. Et du coup, il y a des pratiques à changer. Ça passe dès le stockage du bois, déjà, pour garantir que le bois sèche bien ou, si vous achetez du bois prêt à l'emploi, reste sec. Donc on pense à avoir du bois fondu, on pense à avoir un abri qui soit surélevé, ventilé et aéré, ce qui est très important pour garantir le séchage ou le maintien du taux d'humidité du bois. Et ensuite, ça va être vraiment sur la pratique en elle-même, donc l'allumage. On sait que dans des appareils, donc du coup étanche et performant aujourd'hui, dans un foyer ouvert, ça aura beaucoup moins d'intérêt. Mais l'allumage inversé, ce qu'on appelle aujourd'hui l'allumage par le haut aussi, c'est le fait en fait d'inverser ces pratiques. On va mettre ces grosses bûches en premier, son bois d'allumage et son allume-feu sur le haut. Cette technique-là permet du coup d'avoir une montée en température très rapide du foyer, d'atteindre les conditions optimales de combustion. Et on sait que ça représente 80% des émissions, les 10 à 15 premières minutes d'allumage. C'est 80% des émissions d'une combustion. Ce geste-là, l'allumage inversé, permet de réduire jusqu'à 50% ce taux d'émission. Donc c'est un petit geste qui a vraiment un fort impact. C'est juste une habitude à changer, comme d'autres, mais les appareils ont évolué, donc nos habitudes d'utilisation doivent évoluer aussi.
Et ensuite, sur la façon dont on entretient le feu, il faut plutôt faire tourner à plein régime la cheminée que de chauffer au ralenti, quoi.
C'est ça, il faut faire des flambées vives, il faut mettre beaucoup d'air. Donc déjà aussi, c'est, on ne brûle que du bois. C'est important de le dire, mais du bois, rien que du bois. On évite le bois traité, de brûler le vieux parquet, le bout de clôture qui traînait dans le jardin. Non, non, du bois neutre. Pareil pour l'allume-feu. Aujourd'hui, on a des allume-feux écologiques. Donc déjà, on ne brûle que du bois. Et après, oui, il faut de l'air pour avoir une bonne combustion. Donc il faut éviter d'étouffer, de faire vivoter un feu. Le meilleur exemple qu'on a encore aujourd'hui, c'est l'habitude de garder la plus grosse bûche de côté pour la mettre dans la cheminée avant d'aller se coucher, dans l'espoir d'avoir un peu de braise le lendemain pour ne pas refaire un allumage. Bah là, on a fait vivoter un feu toute la nuit. Donc, on a émis plus de particules que ce qu'on aurait dû toute la nuit. Et donc, non, aujourd'hui, c'est je vais me coucher, je fais en sorte d'avoir justement suffisamment d'air, d'aller au bout de ma combustion pour qu'elle soit optimale. J'aurai suffisamment d'énergie pour garder mon foyer au chaud. Et le lendemain matin, je refais un allumage inversé. C'est très rapide. C'est un petit geste qui prend 5 minutes et on repart sur une combustion optimale et on limite notre impact.
La dernière chose, c'est l'entretien, particulièrement important sur les poêles, c'est ça ? Donc, en plus du ramonage, il faut prévoir un entretien une fois par an. Peut-être que certains usagers y échappent et ne sont pas assez rigoureux là-dessus.
C'est ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui font aussi eux-mêmes leur ramonage. Alors, déjà, aujourd'hui, il y a un décret et un arrêté qui sont sortis. Donc, il faut faire au moins un ramonage par an par un professionnel. Le ramonage, ce n'est pas simplement un coup de hérisson. On appelle ça comme ça, l'outil utilisé pour ramoner vos conduits. C'est aussi l'entretien intégral du poêle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un poêle, il y a différentes composantes dedans, différentes parois. Il faut les enlever, dépoussiérer l'intégralité du poêle. Donc ça peut être fait par le particulier, mais sinon à minima par un professionnel qui va faire l'entretien de l'appareil et du conduit d'évacuation des fumées. Et après, il y a un entretien régulier à avoir sur son appareil et aussi des alertes à avoir. Si vous nettoyez trop souvent votre vitre sur un poêle à bois récent étanche, c'est que vous n'avez pas les conditions de combustion optimales. Si vous avez beaucoup de cendres, c'est qu'il y a un problème aussi, soit au niveau de l'installation, est-ce qu'il est mal dimensionné ou autre, soit au niveau du bois. Et ça, c'est des alertes qu'on peut garder si on change de fournisseur de bois. Tiens, sur une année sur l'autre, j'ai eu plus de cendres ou j'ai nettoyé plus mon insert. Est-ce que ça vient certainement du coup du bois ? Et bien, peut-être qu'il faut contrôler l'humidité ou alerter le professionnel. C'est ces petits signes qui permettent de garantir qu'on a une bonne combustion. C'est une vitre qui se nettoie grâce à la chaleur du foyer et des peu de suie et de sueur dans les résidus de ramonage.
Tous ces sujets, ils sont évoqués donc dans le cadre du Bûche Tour qui a commencé au mois de novembre 2023 avec d'abord des animations sur les marchés de Rennes Métropole. Et là, on se retrouve pour un nouveau temps fort en ce début d'année 2024 sous forme de village éphémère. Il y a 3 dates qui sont annoncées donc en janvier et jusqu'à début février dans des magasins, en fait, c'est ça, sur des avec des partenaires commerciaux, on peut le dire comme ça.
Effectivement, donc là, il y a 3 magasins partenaires qui nous accueillent aimablement, puisque donc les habitants sont conviés à venir échanger avec nous, découvrir, parce que c'est vrai que l'allumage par le haut, on l'a vu lors des marchés.
C'est contre-intuitif.
C'est contre-intuitif, les gens n'y croient pas, ça ne marchera pas. Ou j'ai tellement l'habitude de le faire par en bas que je ne vois pas bien comment ça pourrait marcher par en haut. Donc c'était bien de l'expliquer sur le marché, mais on leur disait, bon, venez voir. Et ça, c'est mieux d'avoir des professionnels, du matériel pour pouvoir le montrer. Et au-delà d'avoir juste du matériel, du coup, c'est toute la filière qu'on a essayé de mobiliser, du bûcheron au fournisseur de bois, pour vraiment avoir l'explication de toute la filière pro, pour dire, bah voilà, effectivement, tous les conseils qu'on vient de vous expliquer, les professionnels seront là pour le rappeler. Et les habitants sont invités pour échanger. Hein. Donc, il n'y aura rien à vendre durant ces villages éphémères. Et on fait même gagner un an de chauffage au bois. C'est la carotte, un petit peu, de dire... Et si vous veniez gagner un an de chauffage au bois, donc on a une bûche, le bûche challenge. Donc là, on a faire découvrir le poids d'une bûche. Donc on se trimballe avec notre bûche depuis le mois de novembre. Là. Et il y a déjà pas mal de citoyens qui ont joué à notre jeu, ce qui était un petit peu le deal pour qu'on échange sur les bonnes pratiques. Et puis on leur dit, et si vous voulez, vous allez peut-être gagner un an de chauffage au bois.
Avec un panier garni, mais sous forme de bûche. Les dates, on les annonce. Donc, ces villages éphémères, ils auront lieu à la Mézière le week-end qui arrive, le 20 janvier, dans le magasin Cheminée Imagine. Le 26 janvier, la semaine suivante, ça se passe à Champy, dans le magasin Asgard, je ne sais pas comment on prononce.
Asgard.
Et le 3 février, enfin, chez Poil et Braise, du côté de Gauvin, pour rencontrer donc les acteurs clés de cette filière et puis découvrir des possibilités pour développer un chauffage au bois responsable. Je vous représente tous les deux, Jacques Leletti et Morgane Le Breton. Vous êtes respectivement chargés de mission santé-environnement à la Maison de la Consommation et de l'Environnement, et pour Morgane, animateur bois-énergie chez Fibois Bretagne. Pour plus d'infos sur les sujets qu'on a évoqués, il y a le site fibois-bretagne.fr et le site de la MCE, mce-info.org. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Soldat de plomb, pâle figurine, sous tes galons, un corps s'anime, dès le clairon, dans ta cabane, tu te demandes.
C'était Son parapluie avec le morceau Ami ennemi et la voix d'Armel Pioline, une nouveauté musicale repérée par Yann Barbotin, notre programmateur musical ici à Canal B. Ce titre, il est sorti en novembre 2023. Et alors, Son parapluie, c'est un projet à plusieurs têtes réuni autour de Jérôme Didelot et avec sur ce single la voix d'Armel Pioline qui raconte ce goût des batailles qui s'impose souvent dans le jeu amoureux. son parapluie c'est de la pop, en français, est passé pour sa première scène par les Transmusicales le mois dernier. Vous écoutez La Reine sur Canal B, et avant de se quitter, vous n'y échapperez pas, c'est la recommandation du jour avec trois propositions aujourd'hui. On le redit, la recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils de choses à écouter, à voir ou à vivre près de chez soi. Aujourd'hui, on annonce trois événements qui ont lieu vendredi 19 janvier. D'abord, le premier événement de l'année pour le service culturel de l'Université Rennes 2, à l'occasion des Nuits de la Lecture qui sont organisées un peu partout en France du 18 au 21 janvier. À Rennes, c'est la bibliothèque universitaire qui accueillera une proposition vendredi 19 janvier sur les coups de 13h. La restitution d'ateliers d'écriture et de mise en voix menés par l'autrice Juliette Thomas, et ce avec les étudiants et personnels de l'université Rennes 2. Ensemble, durant deux sessions, ils ont exploré le thème du corps par le biais du désir, également de l'engagement des corps dans les luttes, dans le monde et dans nos vies. Résultat à découvrir sous forme de lecture de texte vendredi à 13h à la BU sur le campus Rennes 2. La durée de la restitution, c'est environ 45 minutes. Pour plus d'infos, il y a toujours le site bu.unif-rn2.fr. Ensuite, j'ai noté deux conférences gesticulées le même jour. La première, elle commence à 19h au resto bistrot coopératif Pépite, c'est dans le quartier Maurepas. Sur scène, on retrouvera Maëlle Bulle, une bretonne a priori, qui présente son spectacle « Je suis grosse, gourmande et je t'emmerde ». Elle nous parlera IMC, facteur de l'obésité, trouble du comportement alimentaire, mais aussi féminisme et injonction de beauté. Une conférence qui est à prix libre, toutefois déconseillée aux moins de 14 ans. La deuxième conférence gesticulée, ça se passe au CRIDEV à Rennes à partir de 20h. Alors le CRIDEV, c'est le centre de ressources et d'interpellation pour un monde sans rapport de domination. Une asso qui propose en partenariat avec L'Ouvrageuse, une autre structure du territoire, un seul en scène intitulé « Transformer nos imaginaires est un sport de combat ». Un récit de vie de Marlène Sambugaro pour parler du burn-out qui guette dans les mondes du spectacle et de l'associatif. Là aussi, l'entrée est à prix libre et les inscriptions sont conseillées auprès du CRIDEV. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.